Le caucus Iaccarini qui s'est décalé pour notre entrevue avec Pascal Paradis. Il est exactement midi 24, je vous rappelle. Téléchargez notre application BLVD101 sur le App Store sur Android et également avec votre haut-parleur intelligent ou Alexia, vous n'avez qu'à dire. Écoutez BLVD et vous arrivez directement sur BLVD. Pour réagir, 418-971-102. Antonine, ça fait toujours réagir quand on parle de souveraineté.
Ah, toujours.
Ça parle de péréquation, ça parle de est-ce qu'on va développer nos ressources naturelles. J'aime ça, les gens aiment leur Québec et veulent voir un Québec prospère. Donc, merci infiniment de réagir. 418-971-102. Qu'est-ce que tu as pensé de notre ami Pascal Paradis?
Ben écoute, je trouve que le PQ a une meilleure posture par rapport au remaniement. Tu sais, il critique et tout ça, mais notamment pour la région, parce que moi, c'est un des éléments qui, évidemment, m'intéresse le plus. Je regardais un peu la réaction de Québec solidaire. On a des députés de QS aussi dans la région. Puis je trouvais qu'on ne se mettait pas beaucoup en mode collaboration. Puis je le sais, là, que c'est correct, il faut faire de la politique, il faut critiquer, les oppositions sont là pour ça. Mais moi, je suis un peu tannée quand même dans la région de Québec. On dirait que on rame jamais tous dans le même sens. On peut pas ramer dans le même sens sur tout le temps. Moi, la transpartisanerie, ça a ses limites, puis c'est bien correct. Mais on a l'impression de stagner des fois à Québec, puis que finalement, tout le monde est très polarisé. Mais ça serait le fun des fois d'avoir certains éléments, des projets sur lesquels on a une vision commune, puis qu'on va dans le même sens.
Sur le 90 députés de la CAQ qui l'a remonté à tête.
Jusqu'à 14 heures, on en jase.
On en jase.
On en jase. Qu'est-ce qui se passe là? Sais-tu justement le 90 députés de la CAQ qui l'a remonté à la tête puis ont décidé de ne pas travailler en équipe, comme on voyait à l'époque justement avec Agnès Maltais, Amam Ahad, Gérard Deltel?
Oui, c'est sûr qu'avoir un gouvernement super majoritaire, ça peut avoir un peu cet effet-là, des fois un peu d'arrogance peut-être, c'est possible. Mm-hmm. Mais moi, j'y vois plus en fait un changement du paysage politique. Parce qu'à l'époque où c'était PQ-PLQ, bien, les dossiers de la région, c'était pas là-dessus qu'on se coltaillait là, au PQ puis au PLQ. On se coltaillait sur la question nationale, sur la langue, etc. Mais pas sur l'habitation puis la couleur du tramway. Là. Alors que là, ben, on a un paysage politique plus morcelé avec Québec solidaire et la CAQ, donc des partis qui sont pratiquement aux opposés, avec un maire de la ville qui s'entend pas toujours super bien avec le gouvernement. Donc, c'est plus une question de dynamique partisane, j'ai envie... dire. Puis aussi, les municipalités de nos jours s'occupent de toutes sortes de dossiers qui dépassent un peu simplement la gestion municipale.
Bien, en effet, on a déjà pensé au changement itinérant, changement climatique où on demande de l'argent pour les infrastructures.
Fait que c'est des occasions supplémentaires de ne pas être d'accord.
Ouais.
Et on dirait que ça a eu cet effet-là. Puis c'est vrai qu'on est peut-être un peu nostalgique d'une époque avec sa maman d'Agnès Maltais, là, où est-ce qu'on met tout ça rose parce que plus les années passent.
Oui, c'est ça. C'était-tu si collaboratif que ça? C'est ça, là.
Mais là, on est quand même dans les dernières années. Dans une dynamique qui est plus polarisée à Québec.
Exactement. Hey, parlons du remaniement ministériel d'hier. Bon, Pascal Paradis vient de nous dire une grosse mascarade de communication. Honnêtement, je suis d'accord avec lui. Il y a quand même des gagnants et des perdants. Puis moi, ma grande surprise, c'est Jonathan Julien.
Il y a eu une
qui
promotion.
Était tout feu, tout flamme. C'était l'homme le plus heureux de la CAQ hier. J'ai regardé le remaniement ministériel. Ça te surprend, cette promotion-là?
Bien, d'abord, il faut se rappeler que dans le premier mandat, Jonathan Julien avait quand même un gros dossier. Il y avait énergie et ressources naturelles. Maintenant, ressources naturelles, c'est plus petit parce qu'on a enlevé l'énergie. Mais c'était un gros dossier qu'avait Jonathan Julien, somme toute. Deuxième mandat, il avait demandé à avoir les infrastructures. C'est quelque chose qu'il voulait avoir, mais cela dit, c'était un plus petit dossier auquel on a ajouté la capitale nationale. Donc, finalement, là, on s'en va au transport, mais on n'a plus la capitale nationale. Donc, oui, c'est un plus gros dossier, mais on a perdu un morceau quand même. Donc, finalement, j'ai comme l'impression qu'il suit une ligne plus linéaire, plus horizontale, Jonathan Julien. Mais il n'a pas été puni, en tout cas, ça, c'est sûr. On n'a pas décidé de le sortir du Conseil des ministres, comme ça a été le cas, par exemple, pour François Bonnardel. Du côté des gagnants, France-Hélène Duranceau.
Clairement.
Ministre de l'Habitation.
Hey, mais attends une minute, là, France-Hélène, attends, c'est-tu bien France-Hélène?
Président du Conseil du Trésor. Je me retiens pour pas faire une blague.
Il aurait dû s'en retenir.
Et pas dire qu'il va.
On n'appellera pas Cruella, non. Va être en charge. Non, sincèrement, on enchaîne.
Oui, on enchaîne.
Il François, a dû enchaîner François, avant
François, on enchaîne.
Mais
François
là, c'est fini, là. les caricatures, les oppositions vont pouvoir utiliser ce mot-là. Veux-tu bien me dire pourquoi le PM a dit ça?
Ah, je sais pas. Des fois, il pense à haute voix, puis là, on est à la radio, alors on peut pas vous mettre le visage de François-Hélène Durasseau. Je vais vous le décrire. Sourire malaisé et yeux très, très ronds, là, voulant dire vraiment?
Je me suis rendu là moi-même.
Ah, ouais, puis on entend vraiment le malaise aussi là, dans l'extrait.
On entend le malaise, faut le faire quand même.
Oui, et on s'entend, là. C'est 87 personnes de la CAQ qui sont assises dans la salle et ils ont un malaise.
Il y a eu des malaises. J'ai reçu beaucoup de textos à cette minute-là. Cela dit, c'est une promotion pour François-Hélène Durasseau que moi, jamais je n'appellerai Cruella. D'ailleurs, je trouve ça sexiste comme terme.
Clairement.
Est-ce que vous avez déjà entendu ça un personnage comme oncle, ça là, qui a été accolé à un homme? Mm-hmm. Non, je n'ai jamais vu ça. Donc, on ne l'appellera pas comme ça ici. Sauf que c'est lié... En fait, cette promotion-là est importante pour François-Hélène Durasseau parce qu'après le remaniement, le premier ministre a fait un discours dans lequel il a établi des nouvelles priorités. Oui. Je le mets entre guillemets nouvelles parce que effectivement, M. Paradis tantôt nous faisait remarquer que c'est des choses notamment qui avaient été dites en 2018 et je ne suis pas en désaccord avec lui, mais peut-être qu'on s'éparpille un peu moins. Et un de ses champs d'action, c'est l'efficacité. On veut sortir de la camisole de force dans laquelle on est encarcané au Québec.
Oh, rien de moins que sortir du système actuel, sortir de cette camisole de force, ça veut dire qu'il faut couper profondément dans la bureaucratie. Ça nous prend un traitement choc. Il va falloir que chaque ministère fasse le ménage dans sa bureaucratie.
Retour vers le futur. On est en 2017-18, ça, quand François Legault dit ça.
Oui, puis même en 2003, réingénierie de l'État, Jean Charest, ça revient régulièrement.
On dit... Parce que, tu sais, moi, je regarde ça, puis je me dis, comment croire François Legault que lui-même crée cette camisole de force-là?
Oui, parce qu'on peut lui reprocher d'avoir ajouté certaines bureaucraties lui-même dans certaines priorités, mais en même temps, je vais combattre un peu le cynisme aujourd'hui. François Legault, il a des obsessions. Okay? C'est un député, un élu, un politicien qui est là depuis longtemps dans le paysage politique. Puis je vais vous dire, casser les syndicats, notamment, ça fait partie de ses obsessions personnelles. Est-ce que des fois, il y a eu des compromis? Est-ce qu'il y a eu d'autres priorités à d'autres moments? Oui. Mais je le crois sincère quand il parle de vouloir sortir du carcan. Mais
là, on l'écoute encore sans les syndicats, il y en a parlé.
Sortir de ce système, ça veut dire aussi qu'on va devoir avoir le courage de moderniser le régime syndical.
Le courage de moderniser le régime syndical. Puis là, je ne l'ai pas fait jouer au complet, mais on continue en disant les médecins, c'est la guerre aux médecins. C'est pas vrai que les omnipraticiens et les spécialistes vont gagner. C'est nous autres, la CAQ.
Oui, puis encore une fois, pour combattre un peu le cynisme puis quand même donner ce qui revient à César, il y a eu des projets de loi aussi récemment limitant le droit de grève. Donc ça, c'est quelque chose de concret qui a été fait par le ministre du Travail, Jean Boulay. Donc dans ces quatre champs d'action, l'économie, c'est une autre obsession de François Legault. La vision qu'il a apportée, c'est sûr que c'est entaché par le projet Northvolt, mais ça demeure, ce qui garde François Legault réveillé la nuit, c'est... ça, c'est l'économie, réduire l'écart de richesse avec l'Ontario. Il est sincère là-dedans. Après ça, dans les manières de faire, on peut évidemment en débattre. Un autre pan important, puis qui est un peu nouveau, c'est celui de la sécurité. D'ailleurs, on avait Pascal Paradis avec nous tantôt. Le PQ en parle beaucoup, hein? Notamment Paul Saint-Pierre Plamondon, dont la circonscription est à Montréal, a fait plusieurs sorties sur les armes à feu, les gangs de rue, l'espèce de sentiment d'insécurité. Et là, c'est un autre des gagnants du remaniement qui va être en charge de tout ça, Yann Lafrenière, qui était ministre des Affaires autochtones et qui maintenant récupère en plus la sécurité publique. Il est allé shipper à François Bonnardel, ce pauvre diable.
Mais lui, c'est mérité parce qu'avec les relations autochtones, il a fait un travail remarquable. Donc, tu sais, moi, quelqu'un qui a bien travaillé, qui a une récompense, je n'ai rien contre, là.
Oui, puis même quand il n'était pas encore ministre des Affaires autochtones, parce qu'il faut se rappeler, il a remplacé Sylvie Damour,
qui
s'était brûlée auprès des Premières Nations. Il avait mené un projet de commission spéciale sur l'exploitation sexuelle avec d'autres députés puis de d'autres partis très transpartisans aussi. Et c'était un exemple, je trouve, d'accomplissement concret que des députés non-ministres sont capables, une fois de temps en temps, de faire. Tu sais, quand on parle de valorisation du rôle de député, là, tout le monde veut rentrer au Conseil des ministres, là, on était vraiment là-dedans cette semaine, mais il y a des députés qui se démarque par certains projets. Et Yann Lafrenière a vraiment monté l'échelle une marche après l'autre comme ça. Donc, Yann Lafrenière qui sera en charge de sortir des mesures concrètes pour combattre justement là, les phénomènes qui font monter le sentiment d'insécurité au Québec. C'est un phénomène qui est, j'ai envie de dire, d'un océan à l'autre au Canada. Là, c'est pas unique au Québec. Le Québec demeure un endroit quand même, somme toute, assez sécuritaire, un taux d'homicide qui est assez bas et tout ça. Mais on a quand même des drapeaux rouges, circulation d'armes à feu, des violences, notamment chez les mineurs. On parle des gangs de rue beaucoup. Pas facile à gérer comme société là, quand on a des mineurs qui commettent des crimes. Donc, moi, je vais être vraiment tout ouïe pour entendre les propositions de tous les partis pour un enjeu qui est hyper important. Puis je pense que ça peut être payant politiquement aussi.
Clairement. Bernard Drainville a fait un grand exposé sur ses médias sociaux 4 heures avant d'être nommé ministre de l'Environnement en rappelant les 6 grandes réalisations qu'il a faites dans le domaine de l'éducation. Ça lui a valu beaucoup de sarcasme dans les commentaires. Sonia Lebel est une gagnante et oui, je crois que Sonia Lebel est accueillie à bras ouverts par le secteur de l'éducation. Je me trompe?
Les ministres de l'Éducation l'ont toujours difficile. On s'entend, c'est pas un réseau qui est facile. T'as des syndicats qui sont très revendicateurs. Cela dit, il donne la chance à la coureuse. Moi, je pense que c'est toujours l'attitude à adopter. Parce que si tu tires déjà sa personne avant qu'elle aille ouvrir la bouche, quelle crédibilité tu as dans le débat public par la suite. Donc, bravo pour ça. Donc oui, Sonia Lebel qui a eu une promotion. Bernard Drainville, c'est pas une promotion de se retrouver à l'environnement. Par contre, avec le discours du PM hier, j'ai compris un peu mieux pourquoi il se retrouvait là. C'est tout dans la question de l'efficacité, notamment des autorisations environnementales.
Il y a un effort particulier qui doit être fait dans un ministère qui est assis juste à côté de la présidente. C'est dans l'environnement. Bloquer le développement avec des délais qui n'ont pas de bon sens, qui sont interminables. Donc, le nouveau ministre...
Alors, Bernard Drainville a vraiment, mais vraiment, cette responsabilité-là de dire « on va plus vite ». Puis moi, je veux avoir la responsabilité aussi de mettre fin là, à cette échéancier-là, serrée des véhicules électriques. Là.
Probablement. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on embarque dans le train Carney. Là. C'est aussi un phénomène au fédéral. On est dans cette même foulée-là.
On est dans le caucus Iaccarini avec Antonine Iaccarini. Normalement, c'est du lundi au jeudi à midi. Aujourd'hui, on a eu la visite de Pascal Paradis à midi, donc on l'a fait de midi 15 à midi 45. Geneviève Guilbeault, tu la mets dans les perdantes et parmi celles et ceux qui sont attendus de pied ferme, je laisse entendre Guillaume Tremblay, président de l'Union des municipalités du Québec. Tu vas voir que Geneviève Guilbeault apporte pas avec un préjugé favorable.
Ben disons, c'est une nouvelle qu'on avait vue depuis quelques jours là, dans les médias. Maintenant, tiens, on se mettra pas la tête dans le sable. Le monde municipal avec Mme Guilbeault, on a eu quelques dossiers un peu épineux dans les dernières années. Maintenant, on va donner la chance au coureur, puis on va essayer de voir la chose de façon optimiste. Et on souhaite ardemment d'avoir une collaboration essentielle avec la ministre des Affaires municipales.
Avec Mme Laforêt, ça allait bien?
Ça allait très bien avec Mme Laforêt. Honnêtement, on sentait vraiment une écoute exceptionnelle. Des fois, elle ne pouvait pas toujours répondre oui, mais elle avait toujours on était toujours en mode solution avec Mme Laforêt. Puis c'est ce qu'on souhaite justement avec Mme Guilbeault à cet égard.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que Geneviève Guilbeault leur a brossé la cage pas à peu près que le financement des sociétés de transport. Fait qu'il n'y a pas un maire ou une mairesse au Québec présentement qui se réjouit de ça. Là.
Ben, le message qui est envoyé par Guillaume Tremblay, c'est écoute et mode solution. Hein? Moi, c'est ça que j'ai compris. Donc, c'est l'attente qu'on a. On était bien contents avec André Laforêt. On aimerait bien avoir de l'écoute et un mode solution aussi. Par contre, un petit mot sur Geneviève Guilbeault, son approche avec les municipalités. Elle a souvent fait des plaidoyers pour l'autonomie municipale. Donc ça pourrait être un point positif dans son approche. Je pense pas qu'elle va être quelqu'un qui va beaucoup empiéter et essayer de contrôler nécessairement les municipalités. Autre mesure, on verra bien. Ouais.
418-971-101 pour réagir avec nous, texto d'une enseignante. Elle a géré notre convention collective. Non, elle n'est pas la bienvenue par les enseignants. C'est en parlant de Sonia Lebel, évidemment, qui arrive à l'éducation. Hey, Pablo Rodriguez, il est donc bien hésitant, lui. C'est un chef ou c'est pas un chef, là? Il faudrait pas qu'il y ait d'élection anticipée
aller parce que pas sûr que je vais être prêt. Qu'est-ce que t'en penses, Marois?
Vite, faut qu'on trouve des candidats
des
de
candidats.
Coup.
Puis Marois parle à ma place parce que ça va être mieux que si c'est moi qui parle. Ça ressemble à ça, Pablo Rodriguez.
Oui, par moment, un peu. Bon, écoute, le Parti libéral était en caucus cette semaine. Évidemment, leur caucus était complètement... Un caucus, c'est aussi une occasion de communication en passant, puis on a toujours des petites annonces à faire. Mais là, c'était complètement éclipsé par le remaniement.
Tu dis.
On fait une annonce d'une escouade PME, puis ça passe complètement dans le dalou. Il aurait peut-être dû la remettre
à un
autre moment.
Quand je fais mon annonce comme ça, en disant, ouais, je vais créer Marois, qu'est-ce que je crée? Ah, les PME!
Ton imitation vaut 100$. J'ai même de la misère à me concentrer. OK, donc, Pablo Rodriguez a été questionné sur l'éventualité d'élections anticipées. Moi, il y a pas mal de monde qui me pose la question. Crois-tu à ce scénario? Pourrais-tu avoir des élections anticipées? Puis, je réponds la même affaire à tout le monde. Bof, ça m'étonnerait parce qu'on a une loi au Québec qui fait en sorte qu'on a des élections à date fixe, à part si on a un gouvernement qui est minoritaire. Donc là, je ne vois pas pourquoi on commencerait à contourner cette loi-là puis à dire, ah ben là, si les sondages sont bons ou ben si j'ai peur d'être encore pire dans les sondages ou ben si mon leadership est... Non, on ne contourne pas la loi.
Oui, parce que j'ai besoin de cette loi-là pour devenir un chef crédible.
Il faut que tu arrêtes, je ne serai pas capable de finir. Donc, tout ça pour dire que Pablo Rodriguez n'était pas d'accord avec ça et je suis d'accord avec M. Rodriguez qu'on ne devrait pas avoir des élections anticipées. Par contre, quand tu es chef de l'opposition, que tu as des résultats de sondage qui sont encourageants comparés de l'an passé où les libéraux se mettaient pratiquement un sac en papier sur la tête là, quand on leur demandait c'était quoi leur formation politique, ben, je pense qu'il faut que tu montres que tu es... T'as le couteau entre les dents, que t'as pas peur.
Ben,
le recrutement doit être quand même pas pire en ce moment au Parti libéral. Ouais. Imaginez la CAQ, comment ça va être plus difficile d'aller chercher
clairement
des candidats si jamais les...
T'es Pablo aurait dû dire, je suis prêt, on fonce.
Je suis capable.
OK, c'est
donc, le Parti libéral qui dit que... En fait, c'est Marois Risky, t'as tout à fait raison, qui a fait cette annonce-là. Donc,
ben oui.
C'est drôle de voir la dynamique entre les deux chefs. On dirait quasiment Québec solidaire avec les deux porte-parole, un féminin, un masculin, qui a dit qu'on visait de trouver 50% des candidats d'ici Noël.
Mm-hmm.
Puis, trouver des candidats d'avance, ça peut avoir l'air facile, mais c'est quand même difficile parce que, disons-le, vous, là, à la maison aujourd'hui, là, vous annoncez à votre employeur que vous allez être candidat en 2026, bien, votre employeur, est-ce qu'il va vraiment être à l'aise avec ça? Est-ce que ça peut vous nuire professionnellement? Est-ce que lui, il veut que, je ne sais pas, dépendamment du poste que vous occupez, c'est pas tout le monde qui peut s'annoncer énormément d'avance.
Du tout, Claude Vénin nous en parle beaucoup là, pour les élections municipales, d'ailleurs. Je termine avec Mark Carney qui a fait des annonces de grands projets. Normalement, il y aura une conférence de presse qui devrait se faire aujourd'hui. Parmi les grands projets, on a le terminal contre-cœur au port de Montréal, mais il n'y a pas d'autres projets, là, sauf erreur, là, du Québec. Là. Donc, c'est vraiment minime là, l'impact sur le Québec.
En fait, c'est le niveau d'avancement des projets hein, qui fait en sorte aussi là, que ça se retrouve sur la liste des grands projets d'intérêt national, ceux pour lesquels on peut contourner toutes les lois là, grâce à la nouvelle loi C5 et aller plus rapidement, comme c'est la thématique un peu partout à travers le pays. 5 projets, dont 2 qui se trouvent en Colombie-Britannique. Il y en a en Ontario aussi. C'est des mines. On a un projet nucléaire aussi en Ontario. Projet de gaz liquéfié. Et un projet au Québec, celui de contre-cœur. Bon, sur 5 projets, qu'il y ait un projet au Québec, c'est pas anormal, là, cela dit. Puis il y a d'autres projets qui sont dans la mire, mais qui sont un peu moins avancés. Puis on peut penser notamment au train haute vitesse, le TGV, qui nous touche ici parce qu'évidemment, ça va être un trajet de Québec jusqu'à Toronto. Mais tout ce qui est les autres projets, on a vu un nouveau GNL hein, qui voulait peut-être s'installer, l'entreprise Marine Vest, mais c'est pas assez avancé pour se retrouver sur cette liste-là. Je sais qu'il y a des discussions en ce moment, il y a des rencontres, l'entreprise qui rencontre toutes sortes d'acteurs clés et qui aimerait bien se retrouver sur la liste des grands projets, mais c'est pas encore assez avancé.
Et là, cette loi-là, la loi C5 pour faire avancer les grands projets, et on termine avec ceci, Antonine, dans le caucus Iaccarini, qui va se retrouver là, justement là, devant les tribunaux au Québec.
Oui. Déjà, la loi C5, adoptée à toute vitesse pendant la courte session parlementaire du printemps et sous Bâillon, ça avait brassé beaucoup avec, pas les oppositions, parce que les conservateurs l'ont appuyé, mais avec les communautés autochtones, les nations autochtones à travers le pays qui trouvaient qu'ils se faisaient passer sur le corps avec, avec ce projet de loi-là. Ils étaient très, très fâchés pour plusieurs d'entre eux. Puis Marconi a passé des mauvais quarts d'heure là, dans ses rencontres avec les communautés autochtones, justement à cause de ça. Mais maintenant, on a aussi une poursuite. Donc, le Centre québécois du droit de l'environnement qui dépose un recours devant la Cour supérieure pour contester la validité de la loi. On dit que ça contourne trop de lois. Mm-hmm. Ça va empiéter sur les lois environnementales du Québec. Donc, déjà que ça a brassé avec les Autochtones, là, évidemment, les écologistes vont,
exactement,
vont s'y mettre.
Ça va être intéressant de voir la suite avec ce qu'on a entendu de François Legault également dans son discours. Antonine Iaccarini, je te souhaite un excellent week-end.
Merci.
On se revoit lundi prochain pour le caucus Iaccarini. Merci beaucoup pour tes excellentes analyses. Je suis convaincu qu'on aura une excellente analyse également de la situation qui prévaut aux États-Unis parce qu'on s'en va immédiatement rejoindre Valérie Beaudoin, chercheuse associée Observatoire sur les États-Unis pour la chaire Raoul Dandurand. Valérie, comment vas-tu?
Ça va très bien. Ça va très bien, vous autres.
Mais ça va très bien. Merci beaucoup de collaborer à l'émission On en jase avec moi et Pascal CV. Valérie, je commence avec ça. Comment te sens-tu là, à la suite là, de cet assassinat là, de Charlie Kirk?